Studio Tamani, voici nos informations en français.
Mise en onde Mamadi Keïta, la présentation Sekou Gadjigo, voici les titres de cette matinale. De 1960 à 2004, le Mali a perdu 3 millions d'hectares de forêt. Selon la direction de la forêt Faya, celle-ci alerte sur la disparition des forêts dans le pays. Et c'est dans ce contexte que le pays a célébré hier dimanche la Journée internationale des forêts. Le bras de fer entre le gouvernement et le syndicat des transporteurs routiers du Mali se durcit. Les transporteurs comptent observer un arrêt de travail de 3 jours à partir de demain mardi 23 mars. La population invite les deux parties au dialogue. Faire de la rentrée littéraire un festival de grande envergure, tel est le souhait des participants et organisateurs de l'événement. Ils l'ont dit ce week-end lors de la clôture de la 13e édition de cette rentrée littéraire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. La restauration des forêts, une voie vers la reprise et le bien-être, tel est le thème de la Journée internationale des forêts. L'événement est célébré tous les 21 mars au Mali. Cette journée s'est déroulée sur fond d'inquiétude de la préservation des forêts. Au même moment, des acteurs de la protection de l'environnement s'insurgent contre la coupe abusive des bois. Ils invitent les autorités à doubler d'efforts pour mieux organiser le secteur. Khalifa Goïta nous en dit plus.
Le nombre d'hectares de forêt au Mali est passé de 4 millions à 1 million de l'indépendance à nos jours. C'est ce qu'indique le directeur de la forêt Faya. Tidiane Sangaré tire la sonnette d'alarme.
Pendant 50 ans seulement, on a perdu plus de 3 millions d'hectares. Et le phénomène continue chaque année. Si on doit perdre 500 000 hectares, avec ce volume, est-ce qu'on va avoir des forêts en 2030 encore?
Il faut prendre les taureaux par les cornes avant qu'il ne soit trop tard, affirme Dr Ibrahim Togola, président de Mali Folk Center. Pour lui, les forêts occupent une place importante dans la protection de l'environnement.
Si les forêts arrivaient à disparaître de cette terre, la vie va disparaître avec. On a des très bons textes, mais malheureusement, ces textes ne sont pas respectés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous prenez les axes routiers maliens, on détruit la forêt pour juste vendre le bois et le charbon de bois. Les efforts qui sont faits à ce niveau sont très timides.
Pour des observateurs, l'urgence impose aux autorités et les différents acteurs de conjuguer leurs efforts pour lutter contre la dégradation des forêts. Ils estiment que cela permettrait d'atténuer les effets du réchauffement climatique.
La Journée internationale des forêts intervient au moment où le nombre de contaminations à la COVID-19 s'accentue. Pourtant, des chercheurs au niveau de la médecine traditionnelle estiment que les forêts occupent une place importante dans la prévention et la lutte contre les pandémies, d'où la nécessité pour eux de les sauvegarder. Professeur Rukia Sanogo, chef du département de la médecine traditionnelle à l'Institut national de santé publique, est joint au téléphone par Khalifa Goïta.
Aujourd'hui, nous pensons qu'une exploitation rationnelle et responsable de la pharmacopée, donc des ressources de la forêt, peut nous apporter des opportunités pour lutter contre toutes les grandes épidémies. Moi, je suis d'avis aujourd'hui, tous les patients aujourd'hui qui sont infectés par la COVID méritent d'être traités. Et nous ne sommes pas dans la polémique où on dit que c'est les plantes seulement. Mais nous voulons que les plantes soient données aux malades de la COVID sous contrôle professionnel. Parce que oui, le vaccin, mais les patients qui sont là doivent être traités. Et nous voulons qu'en plus des traitements classiques, qu'on puisse penser aussi à la pharmacopée qui apporte des solutions.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. 8h04 à Gao, c'est dans le nord du pays. Des hommes armés non identifiés ont assassiné un militaire malien hier dans la ville. De source locale, le crime a été perpétré plutôt samedi au quartier Château. Pour les mêmes sources, l'assassinat serait dû à un règlement de compte. Elles affirment que la gendarmerie a ouvert une enquête pour retrouver les auteurs. Le comité syndical des transporteurs routiers du Mali annonce un arrêt de travail à partir de demain 23 mars. Cette grève qui devrait durer 3 jours selon eux vise à exprimer leur ras-le-bol contre le paiement des frais de péage. L'annonce de cette grève inquiète déjà la population. Elle invite les autorités et les transporteurs à trouver un terrain d'entente. Les détails avec Aboubakrine Agmohamedine Yattara.
Les mots d'ordre seraient 100% respectés, assure le vice-président du syndicat national des transporteurs routiers du Mali. En plus du paiement des prix de péage, le comité syndical dénonce également les tracasseries routières. Jacques Diakité, vice-président du syndicat national des transporteurs routiers du Mali.
Il y a beaucoup de difficultés de transport, les tracasseries routières et beaucoup d'autres problèmes dans le secteur du transport actuel.
Mais est-ce que les services minimums seraient-ils assurés?
Non, et rien ne serait absolu au niveau des secteurs de transport. S'il n'y a pas réaction au niveau de l'administration, c'est cette disposition-là qui va être illimitée en ce moment.
Dans la capitale, cette nouvelle suscite l'inquiétude et la confusion auprès de la population. Pour elle, cet arrêt de travail pourrait impacter leurs activités socio-professionnelles.
Ça, là, ça ne nous range pas, quoi.
Vous-même, vous pouvez observer, la plupart se déplacent en sous-trame. Donc, je pense que ça ne va vraiment pas aller.
C'est très mauvais. On est dans la guerre, on ne sait pas là où aller, on ne sait pas ce qu'on fait. Les grèves là, ça donne quoi?
Contrairement aux informations qui circulent, l'association des commerçants détaillants du Mali indique qu'elle n'est pas affiliée à cette grève. Tout comme la population, les responsables de l'association craignent des répercussions de la grogne sur leurs activités. À titre de rappel, la mesure de paiement par passage du péage aux usagers est en vigueur depuis le 1er mars dernier.
Je vous le disais dans les titres, la 13e édition de la rentrée littéraire a pris fin samedi dernier à Bamako. Les organisateurs et les participants se disent satisfaits du bon déroulement des activités. Au regard de son importance, ils sollicitent sa pérennisation. Plus de précisions avec Adama Amadou Aïdara.
Cette rencontre permet aux jeunes littéraires de se perfectionner, tel est l'avis de Paul-Marie Traoré, un participant. Pour lui, cet événement doit être classé dans le registre des festivals littéraires.
Beaucoup de jeunes aujourd'hui, grâce à la rentrée littéraire, ont cherché à se parfaire et à tirer leurs documents, les manuscrits, des tiroirs pour les corriger et les publier. Il y a des prix. Ceux qui écrivent et qui participent à ces prix doivent nécessairement se corriger.
Les organisateurs n'excluent pas cette alternative. Ils disent être à pied d'œuvre pour donner plus d'ampleur à la cérémonie. Mais en attendant, ils se contentent de la décentralisation de l'événement. Omar Traoré, l'un des organisateurs.
La rentrée, c'est délocalisée parce que les activités qui se passent à Bamako, ce sont les mêmes activités quasiment qui se font dans d'autres régions. Donc cela montre à suffisance que pourquoi pas dans les années à venir que cette activité rentrée littéraire puisse se transformer en un festival international.
La cérémonie de clôture s'est soldée par des remises de trophées. Il faut souligner que cette rencontre sur les livres a lieu à un moment où les bibliothèques au Mali se font de moins en moins fréquentées selon des observateurs.
Adama Amadou Aïdara. Faisons à présent le point de l'évolution de la maladie à coronavirus. À la date d'hier, dimanche 21 mars, les autorités sanitaires ont enregistré 60 nouveaux cas de COVID-19. 18 patients sont guéris et un décès. La situation cumulée est donc de 9330 cas positifs, 6628 guéris et 368 décès. C'est ce qui nous conduit à votre rubrique Acte COVID présentée ce matin par Kali.
Selon des habitants de Kai, la crise sanitaire affecte plusieurs ménages. Il s'agit notamment des foyers qui dépendent de l'aide des Maliens de la diaspora. Ces derniers dénoncent les difficultés liées au transfert d'argent et l'impact de la crise sur leurs parents qui vivent à l'étranger. Comment ces familles tiennent-ils malgré les effets de la pandémie? Élément de réponse avec notre envoyé spécial de retour des Kai, Juliette Kulouali.
Macha Tunkara et Ogundo Diakité sont toutes deux mariées à des immigrés. La pandémie de la COVID-19 a considérablement réduit les transferts d'argent qu'effectuaient leurs époux. Ainsi, les deux dames étaient obligées d'apprendre des activités génératrices de revenus pour subvenir aux besoins de leur famille.
Présentement, c'est Dieu qui nous sauve. Il nous envoie de l'argent par via un système de transfert d'argent. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes.
Tout cela est un tas de problèmes pour avoir de l'argent par via. Nous sommes obligés de faire le maraîchage pour subvenir à nos besoins. Dieu merci, maintenant, ils arrivent à nous envoyer un peu d'argent.
Moussa Marega est le promoteur d'une agence de transfert d'argent et d'une boutique de produits alimentaires. Il explique qu'avec l'arrêt des transferts, il était obligé de donner donner des produits à ses familles avant l'envoi de leur pension alimentaire.
Les gens qui nous viennent des campagnes et ceux qui sont malades, nous leur donnons de l'argent au nom des immigrés. Actuellement, ils nous envoient de l'argent à travers les banques et d'autres moyens de transfert. On ne peut même pas dépasser 2 millions de francs CFA au risque de voir son compte bloqué.
À Kaï, les parents de migrants invitent les populations à respecter les mesures barrières afin d'enrayer la pandémie dans le pays. Juliette Koulibaly, de retour de Kaï.
À présent, la question d'auditeur. Elle est répondue par professeur Akori Ak-Iknan, coordinateur de la cellule nationale de lutte contre la COVID-19 au Mali.
Bonjour professeur. Certaines personnes pensent que quand on reçoit le vaccin, on est guéri complètement ou immunisé contre la maladie. Cela est-il vérifié?
Si vous êtes vacciné, en principe, il y a plus de chances que vous soyez immunisé. Ça veut dire que vous n'allez pas contracter la maladie. C'est ça l'intérêt du vaccin, c'est prévenir la maladie. Et donc c'est un moyen supplémentaire qui va nous aider dans le domaine de la lutte contre cette pandémie, en plus des mesures de prévention habituelles.
C'est tout pour ce numéro d'ActiCovid.
8h10 à Bamako. Les obsèques de Adam Thiam ont eu lieu hier dimanche à Bamako. Le journaliste et écrivain malien mort jeudi dernier de la COVID-19. Parents, amis et confrères ont rendu un hommage appuyé à l'homme qui était Adam Thiam et que retient-on de lui? Élément de réponse avec Moumine Sendebou.
Âgé de 67 ans, Adam Thiam était conseiller à la communication de la présidence du Mali depuis novembre 2019. Il fut également porte-parole d'Alpha Omar Konaré lorsque ce dernier était président de l'Union africaine de 2003 à 2005. Adam Thiam a travaillé pour le quotidien Le Républicain dans lequel il signait une chronique. Il collaborait également avec plusieurs sites d'information, médias nationaux et internationaux. Sa chronique « De quoi je me mêle » était l'une des plus prisées. Le chroniqueur et éditeur réaliste malien était également connu pour la pertinence de ses analyses sur des chaînes de télévision nationales et internationales, dont les débats du dimanche d'Africa Télévision. Pour des confrères, Adam Thiam était un journaliste chevronné et humble. Avec sa disparition, ils estiment que le Mali perd l'une de ses plus belles plumes. Parents et amis, prient pour le repos du défunt qui laisse une épouse et 4 enfants.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Actualité dans les régions, une école dans le village de Kangourou, située à 13 km de la ville de Yuwaru, a été saccagée et brûlée mercredi dernier. Selon un responsable de l'école, les assaillants étaient sur des motos. La même source affirme qu'ils ont emporté des ustensiles de cuisine de la cantine scolaire de l'école. Face à la psychose, les habitants de la localité invitent les autorités à prendre des mesures adéquates. La caravane du Festival international de Sinankunya a débuté vendredi dernier 19 mars à Sibi. C'est une initiative de l'association malienne pour la promotion du Sinankunya. Objectif: consolider la cohésion et l'entente. Des conférences, des débats, des sketchs, des visites de sites touristiques et des concerts sont au programme. Une fille de 13 ans est décédée mercredi dernier à la suite d'un viol à Djoufoya Moribaya dans la commune rurale de Kwantela, cercle de Bafoulabé. Selon des témoins, la victime a été conduite à moto par son bourreau dans la brousse. Les mêmes sources indiquent que l'auteur a reconnu les faits et est détenu à la prison centrale de Bafoulabé. Et c'est ce qui met fin donc à ce journal qui vous a été présenté par Sekou Gadjigo, à la mise en nom de Mamadi Keïta. Merci de l'avoir suivi. Mais ne n'oubliez pas, vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site www.studiotamani.org ou en appelant au 37 321.